Terre View. Okay, the bird. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr et aussi émise sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie à commencer par Hubert François. Bonjour.
Bonjour.
Et Hubert, tu seras accompagné en attendant de Lilian Botin qui arrive en cours d'émission. Et vous serez tous les deux pour nous parler d'Est en Ouest. Alors c'est une initiative qui émane de l'association Nichols Motorcycle. Voilà, c'est ça se dit comme ça. Association caritative, très engagée sur le traitement et la prévention des phytosanitaires.
Oui, c'est exact, parce que notre association regroupe des jeunes du monde rural et surtout des jeunes agriculteurs. Nous avons conscience des enjeux environnementaux qui sont les nôtres, parce que nous sommes les premiers consommateurs de produits phytosanitaires, de pesticides. Alors je crois que c'est notre part d'aller au-devant des gens, des autres agriculteurs et des écoles, pour prévenir de ces enjeux, quoi.
Par quelle motivation vous êtes tous, vous, c'est-à-dire vous êtes 15 hein, au sein de, du bureau, à agir au sein de l'association Nichols Motorcycle. Qu'est-ce qui vous motive tous par rapport à cet enjeu?
Nous pouvons constater que tout est en train de changer. Nous voyons bien qu'il y a un dérèglement climatique. Nous voyons bien que les produits phytosanitaires sont des produits quand même dangereux en soi-même et ça fait très peu de temps que nous sommes au courant de leurs effets. Alors, comme nous sommes la première génération qui sont au courant de ces méfaits, nous avons décidé d'intervenir à notre niveau pour essayer de changer un peu les choses, quoi.
Par exemple, sur le DIWA, est-ce qu'il y a une évidence de ce dérèglement?
Sur le DIWA, ce qu'on peut dire sur le DIWA, c'est que c'est une région qui est un peu moins impactée, parce que nous sommes quand même dans la Biovallée, qui est une des vallées les plus, disons, entre parenthèses, bio qu'on a en France. Alors nos impacts sont beaucoup moins forts. Mais nous faisons surtout des constatations, par exemple ce qui est dans les grandes cultures, dans le nord, dans les cultures céréalières, où il y a une grande disparition du milieu sauvage, de l'environnement, parce que les produits phytosanitaires, les pesticides, dans le temps ils n'étaient pas au courant, mais ça a contaminé les eaux par exemple, alors beaucoup d'affluents sont devenus non potables. Il y a une disparition de la faune, parce que leur milieu était contaminé. Vous imaginez bien que, par exemple, un levreau, quand il se prend du pesticide ou qu'il en consomme, sa vie est considérablement réduite. Et voilà, et c'est surtout dangereux pour l'homme, qui est le premier impacté. Je veux dire, d'un côté, l'agriculteur, qui le passe, parce que pendant longtemps, on a considéré ces produits comme non dangereux. Les agriculteurs les ont utilisés sans protection. Et voilà, ils sont... ont été impactés directement, leurs vies ont été réduites, quoi.
On peut considérer qu'un travail a été fait sur le DIWA ou sur le territoire autour du DIWA par rapport à ces produits phytosanitaires ou il y a encore des choses à faire?
Ouais, on peut considérer quand même que sur le DIWA, proprement parler, cette conscience-là est effective, quoi. Nous, notre travail, surtout sur la région, c'est qu'on va par exemple au devant des écoles pour faire des petites cours. Enfin, vous pouvez le voir sur notre site, on a fait des petits cours pour les enfants qui sont facilement compréhensibles.
Toi-même, Hubert, tu es viticulteur.
Oui.
Alors, tu exploites pour de la clairette, oui, de la vigne.
Je fais du muscat pour produire de la clairette de Die.
Oui, et donc toi tu travailles comment justement avec, utilises-tu des produits phytosanitaires?
Oui justement, moi je suis viticulteur, mais je ne suis pas en bio, ce qui peut parfois simplifier le contact avec les autres agriculteurs qui croient qu'on est genre une association ultra bio. Non, non, on touche tout le monde. Parce qu'on a conscience que les produits phytosanitaires sont, dans certains cas, obligatoires. C'est comme ça.
C'est obligatoire à quel niveau ? Au niveau de l'État ou de normes internationales ?
Non, c'est qu'il faut quand même avoir conscience que, qu'on puisse vivre de notre métier. Alors, c'est, je dirais quelque part que c'est plus facile pour des petites exploitations d'être en bio. Mais pour des jeunes qui reprennent des exploitations qui sont très importantes, comme un de mes amis qui paraît sur notre site, il est héritier de Châteauviran et il possède 400 hectares de vignes. T'hérites de 400 hectares de vignes, tu ne peux pas passer en bio comme ça. Alors il est condamné pour un certain temps à utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides. Alors voilà, s'il veut pouvoir gagner sa vie, pouvoir continuer ses cultures, il est obligé d'en utiliser.
Parce qu'il n'y a pas forcément sa propre production hein, qui est en jeu, mais c'est aussi du fait de probables contaminations sur des exploitations voisines.
Oui.
C'est ça qui impose ces obligations ?
C'est surtout si on veut produire, si on veut pouvoir... On a souvent des contrats auxquels il faut répondre à ces contrats en faisant une production, et si on ne fait pas cette production, on n'obtient pas ces contrats. Et si on n'a pas de contrat, on n'a pas de financement, on ne gagne pas notre vie.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de traitement entre un petit terrain de vignoble et un grand ?
Je dirais que pour les grands, les immenses exploitations, ils peuvent moins se permettre de perdre leur production. Alors voilà, nous on est petits, on peut mieux gérer nos exploitations. Moi par exemple, j'ai voulu rester en agriculture traditionnelle. Parce que je suis en train de créer mon exploitation et j'ai trouvé que passer en bio tout de suite était très difficile pour moi parce que les produits phyto nous allègent énormément de travail. Dans mon esprit, on peut construire une exploitation en agriculture traditionnelle et une fois qu'on a les reins assez solides, passer en bio. Voilà.
Est-ce que l'avantage aussi des petites exploitations de vignobles sont du fait aussi de son environnement ?
Exactement. Nous voyons que dans une région, disons, montagneuse comme la nôtre, la plupart des exploitations sont réduites. Même si pour nous, une exploitation de 30 hectares, c'est grand. J'ai des amis qui sont à Charente et qui possèdent plus de 450 hectares par exploitation. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile de passer en bio sur des petites exploitations que sur des immenses exploitations, même si un travail même sur ces exploitations doit être fait pour essayer de limiter les traitements et tout ça, quoi.
D'ailleurs, est-ce que, je ne sais pas si on peut parler du remembrement qui s'est déroulé dans les années 50-60, est-ce que la vigne en a été aussi, je dirais, victime ?
Non. Parce que la vigne, on peut appeler ça une niche, c'est-à-dire que nous gagnons, enfin, on peut imaginer qu'on gagne mieux notre vie sur une production viticole ou une production qui sert à faire du vin. Et le remembrement a surtout eu des effets sur tout ce qui est grande culture. Voilà, c'est eux les premiers impactés. Quoi.
On peut parler un peu plus aussi d'Est en Ouest,
voilà.
Qui est quand même une grande aventure, puisque en 2019, toi Hubert et Lilian allez jucher sur une moto ou deux motos, donc faire le tour du monde.
Oui.
Alors, une aventure qui part depuis, si je comprends bien, depuis Paris,
oui.
Et qui arrive jusqu'à Mexico. Voilà, et donc en passant d'Est en Ouest, voilà, et passer par Berlin, Moscou.
Exact. En fait, c'est pas la première expédition que nous organisons pour notre association. Ça fait 5 ans déjà que nous partons en moto. À la rencontre des agriculteurs et des écoles dans différents pays. La première s'est faite, comme toutes les premières choses, juste à côté. on possédait juste le permis de 125 et nous avions dit à nos parents que nous allions dans les Pyrénées et on s'est retrouvés au Portugal. C'est surtout là qu'on a eu conscience que les autres agriculteurs, même les agriculteurs des pays européens, étaient très peu au courant des choses, même, je veux dire, ce qui semble normal pour nous, pour se protéger par rapport aux pesticides. Nous avions rencontré, par exemple, en Espagne, nous étions allés voir un agriculteur qui avait une orangerie, et il traitait une parcelle d'orangerie où il y avait ses propres ouvriers au milieu, je veux dire. Nous, on ne voit plus ça. Alors, ça nous a donné cette conscience et nous avions décidé, l'année d'après, d'organiser une expédition qui partait de chez nous, hein, d'Idiwa, qui traversait tous les pays de l'Est jusqu'à la mer Noire. Après, nous sommes descendus en Turquie. Nous sommes revenus par la Grèce et nous sommes rentrés par la Yougoslavie. Nous sommes allés dans chacun de ces pays à la rencontre des agriculteurs, des écoles. On a eu énormément d'échanges et nous avons trouvé que ça avait quand même un impact. Alors voilà, on en a organisé plusieurs autres. Une en Laponie et en Russie et une autre en Afrique du Nord.
Et vous passerez aussi par Pékin ?
Oui.
Alors Pékin, c'est un monde agricole énorme aussi. Vous êtes déjà intéressé un peu comment se pratique l'agriculture en Chine ?
Oui, elle se pratique pas tout à fait comme on imagine. On peut dire que la mondialisation a déjà eu un énorme impact là-bas. Alors on a plusieurs contacts sur place, que ce soit des sortes, bon c'est un peu plus dur pour eux, mais des sortes d'associations en Chine. Nous avons 5 points que nous devons aller voir. Il y a 2 types d'agriculture qui sont très très différentes. Disons que d'un côté il y a tout ce qui est agriculture, c'est gigantesque, c'est beaucoup plus grand que chez nous.
Céréalière,
principalement. Céréalière, ouais. C'est immense. Et puis de l'autre côté, il y a une agriculture qui est extrêmement traditionnelle, je veux dire. Des petits propriétaires en montagne, etc. C'est pour ça que nous avons choisi la moto. Parce que la moto permet d'aller voir les agriculteurs qui sont dans les endroits les plus reculés, de pouvoir donner des sortes de cours dans les écoles, dans des endroits où personne n'irait à part nous, quoi. Et nous trouvons ça important, quoi.
Vous parliez d'agriculture intensive en Chine. Ce sont des terrains qui peuvent être jusqu'à combien de superficie ?
Ouf, on peut imaginer que pour eux, une exploitation de 4000 hectares, c'est normal. Tandis que pour nous, voilà, c'est gigantesque. Alors vous pouvez bien imaginer que pour une exploitation de 4000 hectares, surtout si on n'est pas au courant de quelle dangerosité peuvent avoir certains produits... Ça peut être vraiment désastreux pour l'environnement, quoi.
Et d'ailleurs, vous connaissez un petit peu comment se traite la terre en Chine, par quels moyens et quelles sociétés, on ne va pas citer les sociétés, mais quel type de produits aussi sont utilisés ? Des fertilisants ?
Disons qu'ils utilisent des produits que nous, on n'entend plus parler depuis très longtemps. On imagine que les lois... dans lesquels qu'on entend toujours parler pour interdire certains produits, sont actifs juste en Union européenne et encore souvent surtout en Allemagne ou en France. Nous allons juste en Espagne, ils utilisent des produits qui sont carrément interdits chez nous depuis 10-20 ans. Alors vous pouvez imaginer qu'en Asie, ils ont des produits que nous, on n'a aucune conscience quoi, de la dangerosité.
D'ailleurs, sans aller trop loin, hein, on peut rester sur l'Europe. Vous avez opéré donc sur plusieurs pays,
tous les pays de l'Union européenne,
tous les pays. Donc, ouais. Et vous y avez vu une grande disparité entre ce que nous pratiquons en France comme agriculture et celle de ces pays.
Oui.
Et c'est dû à quoi ? À un manque d'information des collectivités, de l'État ?
C'est juste que les gens n'ont pas conscience de la dangerosité de ces produits. On a une grande conscience en France et en Allemagne, oui. Vous allez rien que dans les pays comme l'Italie du Sud ou l'Espagne, là déjà, c'est un peu flou pour eux. Alors vous pouvez imaginer des pays d'ex-Yougoslavie, pour eux, c'est un autre monde. Pour eux, ils ne voient pas des produits phyto comme quelque chose qui peut être dangereux. Ils voient ça comme quelque chose de, pardon du mot, mais de magique. Pour eux, c'est incroyable. Il y a encore 40 ans ou même moins, 30 ans, ils étaient obligés d'utiliser surtout le travail humain, le travail à la main pour enlever l'herbe, par exemple. Et pour eux, l'herbicide, c'est génial. Alors, faut pas le... voilà. Vous pouvez imaginer les disparités qu'il y a entre nos six grands pays d'Union européenne, les pays puissants, et les pays d'ex-Yougoslavie ou d'ex-URSS.
Par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous vous activez aussi depuis un certain temps sur ce sujet.
Oui.
Et ça s'opère comment et quel en a été le bilan avec les personnes que vous avez pu, par exemple, sensibiliser?
Il se trouve que parmi notre association, moi je suis juste agriculteur, mais voilà. Mais par exemple, Lilian, mon ami, il est œnologue et il est ingénieur agronome. Il y a par exemple Bastien qui est ingénieur en énergie renouvelable. Il y a Marine qui est vétérinaire et qui est souvent au contact des agriculteurs. Alors voilà, il y a énormément de retours, souvent sous forme d'appels ou de questions pour savoir quels seraient les meilleurs... voilà. Comment, par exemple, utiliser tel produit ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de les utiliser ou toutes ces questions.
Oui, parce qu'il y a un certain paradoxe, c'est que vous n'êtes pas contre le produit phytosanitaire, hein, proprement dit, mais vous êtes plutôt pour une
la très limitation,
bonne,
ouais.
Et puis à une bonne utilisation du produit.
Exact.
Alors, comment ça se pratique sur le terrain pour renseigner un agriculteur sur l'utilisation de ces produits?
Déjà, d'une part, on est conscient maintenant de ces effets nocifs. Alors, par exemple... nous achetons des combinaisons, des gants, etc. qu'on distribue aux agriculteurs, qui sont très contents parce que souvent ils l'achetaient pas parce que ça coûte de l'argent. Alors si on leur offre, ils les portent. Et c'est surtout monétairement parlant, parce que des produits phyto, ça coûte très cher. Alors si on leur propose des solutions pour limiter les doses, ils les appliquent. Et surtout si on voit qu'en limitant les doses, les effets sont les mêmes. Quoi.
Précédemment, ces utilisations ou ce nouveau mode d'utilisation, quel impact a provoqué certains produits justement à une mauvaise utilisation?
C'est très facile à voir. Je voudrais pour ça juste qu'on change de continent. On va par exemple en Amérique, dans les immenses plaines agricoles. Ces produits ont été utilisés à extrêmement haute dose et le sol est carrément mort. Je veux dire, vous pouvez arriver, mettre une graine ou essayer de faire pousser un arbre, ben ça marche pas, parce que le sol est mort, voilà. On appelle ça encore de la terre, mais par contre, elle peut plus supporter la vie, voilà.
C'est-à-dire qu'elle retient en elle encore tous les éléments, toutes les molécules de ces
exact.
Produits, puisque leur durée de vie sont extrêmement longues.
Oui, ben certains sont des métaux lourds, alors vous pouvez imaginer ce que font les métaux lourds, hein. Ils restent dans la terre... Moi, je n'ai pas le nombre d'années, mais en tout cas, plus que ma génération. Et ils ont tué aussi tout ce qui est l'environnement du sol, toutes les petites bactéries qui permettent de décomposer la matière organique. Tout ça, toute cette vie a été détruite. Alors, une fois que cette vie a été détruite dans le sol ne fonctionne plus. Et puis, nous ne pouvons plus produire, plus faire pousser de plantes, ni rien.
Quel est ce miracle pour que ces champs aux États-Unis ou en Amérique puissent perdurer, même si la terre est morte?
Là, c'est une très bonne question. Je pense pouvoir un peu y répondre. C'est qu'on a fait énormément de recherches. Et par exemple, je crois que vers Toulouse, il y a un institut qui a créé une sorte de champignons. Enfin, des bactéries que l'on remet dans le sol pour réactiver le sol. Voilà, remettre de la matière vivante, quoi. Et on peut l'aider un peu avec de la matière organique, parce que la matière organique, c'est elle qui fournit de l'énergie au sol. Mais ça se fait pas en une année, hein.
Alors ça s'adresse à Toulouse, donc en France, mais par exemple en Amérique, il y a des méthodes autres?
Non. Pour redonner la vie à la terre, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Et puis, là-bas, on est dans un monde où c'est surtout la capitalisation qui compte. Même s'il y a des mouvements, disons, un peu écolo, quoi, et tout ça, qui essayent de changer les choses, là-bas, c'est très dur. C'est pour ça qu'on a contacté pas mal d'associations sur place. Nous avons contacté des écoles et des instituts où nous allons aller à la rencontre pour dire ce que nous, par exemple, on fait en Europe, pour essayer de leur donner des idées ou pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Que voilà, si on peut agir, on le fera.
Et au niveau de la région et en Auvergne-Rhône-Alpes, vous exercez quelle activité pour informer un public ?
Alors, nous pensons que la génération qui arrive est très importante. On appelle ça même la génération climat, parce que c'est la première génération qui est au courant que son climat va changer dans les années qui arrivent. Pour ça, nous allons à leur rencontre, c'est-à-dire que nous allons dans les écoles et nous donnons des petits cours là-dessus pour prévenir quels sont ces dangers. Eux pourront vraiment changer les choses, je veux dire. Voilà. Nous, ces élèves, pour leur faire prendre conscience, ils pourront nous suivre tout au long de notre voyage. Je veux dire, pour qu'ils prennent conscience que le monde n'est pas que comme l'Occident, pas que comme la France ou nos grands pays, et qu'ils puissent voir que l'agriculture dans tous ces pays sont très différentes des nôtres, quoi, et que ce serait important d'agir de partout.
Si je comprends bien, pendant ce périple en 2019, vous tiendrez contact avec vos ouais. adhérents et les personnes qui s'intéressent à votre travail par le biais d'Internet, par exemple, exact. En tenant un journal de bord.
Oui, voilà, nous avons sur notre site un blog. Nous allons faire des vidéos un peu tout le long où on sera près des autres agriculteurs et tout ça, qu'on pourra voir par exemple sur YouTube. Voilà. Tous nos partenaires, bien sûr, profiteront de tout ça. Nous écrirons aussi dans quelques revues, quoi. Bon, parfois c'est des revues de moto, hein, comme le journal des motards, où ils iront, dans tous les épisodes, ils pourront nous suivre tout au long du chemin, mais pas que. Nous allons écrire, par exemple, voilà, dans la France agricole ou dans d'autres journaux comme ceci, qui sont plus des journaux pour les agriculteurs, quoi. Ils sont diffusés dans la France entière et ils verront que, voilà, comment ça est dans les autres pays.
Oh, voilà. Et puis, on va aborder aussi l'association Nichols Motor. Ah, je crois que Lilian est arrivé.
Ah, c'est là.
Eh bien, Lilian, étant arrivé au studio, justement, j'allais poser une question sur ce qu'était l'association Nichols Motor Cycle.
Alors, l'association Nichols Motor Cycle, ça a été créé... Il y a quelques années, il y a 5 ans, avec un groupe d'une quinzaine de personnes du monde rural, et notamment de familles agricoles. Le but étant de rassembler ces personnes... alors, le nom de l'association vient aussi qu'une bonne partie des membres font de la moto, et qu'on a découvert, en voyageant dans des pays étrangers, qu'il pouvait être nécessaire ou du moins utile de faire de la prévention sur les pesticides, qui est un sujet qu'on connaît bien, étant donné qu'on est vraiment du milieu. Et donc on a créé ce groupe avec des connaissances et des personnes de ce monde, en espérant pouvoir être utile aux agriculteurs, aux personnes... entourant les cultures et puis aussi aux consommateurs et à la biodiversité, au sein d'actions de prévention sur les sujets du monde agricole.
Lilian, vous êtes oui. agronome œnologue de formation.
Alors,
et
oui,
d'exercice.
Je viens d'une formation d'ingénieur agronome, couplée avec un double cursus de diplôme national d'œnologue, qui est connu sous le nom de DNO. Et ça m'a permis d'accumuler pas mal de connaissances sur les sujets des sols, de la vie des plantes, des maladies aussi. C'est notamment à cause des maladies des plantes que les pesticides sont en très grande partie utilisés de nos jours. Et donc j'ai fait une spécialisation dans le vin parce que c'est le domaine de ma famille en particulier.
Avec Hubert, tout à l'heure, nous avons abordé un peu l'impact des produits phytosanitaires sur les vignobles, en fonction de leur taille également. La chance pour notre territoire d'avoir des petites parcelles plutôt que des immenses de plus de centaines d'hectares. Quel est l'impact au niveau gustatif ou au niveau du produit, c'est-à-dire le vin ?
Déjà, pour revenir sur la taille des exploitations, c'est vrai que du moment où on a une petite exploitation, des petites surfaces, on peut porter une plus grande attention à l'évolution des maladies possibles et de s'intéresser précisément à des parcelles qui vont avoir des sensibilités différentes. Et ça permet... Donc notamment par rapport à une grande exploitation, d'avoir plus de chances de mener cette exploitation de manière responsable. Ensuite, c'était quoi la deuxième question ?
Alors la question, c'était par rapport à l'impact des produits phytosanitaires sur l'aspect gustatif et même du produit du vin.
Alors, au niveau gustatif, on a quelques... Disons qu'il y a une maladie, notamment dans la vigne, que je connais particulièrement, qui est l'oïdium. Lorsque on retrouve de l'oïdium sur les grappes de raisin, ça peut donner du goût au vin. Et donc ça, il faut éviter d'avoir de l'oïdium. Donc ce n'est pas un goût qui provient des pesticides, mais c'est en rapport. Quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple, au sujet des cépages aromatiques. Alors, dans la région du Diwa, on a beaucoup de muscat, mais ça marche notamment pour le sauvignon, qui est un cépage, donc on appelle ça thiolé, parce qu'il présente des arômes d'origine... la molécule chimique sont des thiols. Et le fait de passer des produits... phytosanitaires comme le cuivre a comme impact de réduire les quantités de thiol et donc le potentiel aromatique des vins. Ensuite, au sujet des pesticides en général, le fait d'appliquer des produits phytosanitaires sur les vignes n'a pas d'impact direct sur le goût et c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans les vins.
Est-ce qu'on peut parler un peu de Robin, qui est le scientifique de l'équipe, et quelle est sa part dans cette aventure ?
Alors Robin, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui travaille au sein de l'INRA à Montpellier. L'INRA à Montpellier, ils font beaucoup de travaux, surtout au niveau des vignes, et Robin se spécialise dans la lutte biologique. Donc la lutte biologique, c'est ce qu'on appelle... Robin est.
Si tu veux, oui, pour commencer.
Il se spécialise dans l'entomologie. Et l'entomologie, c'est un rapport avec la lutte biologique, puisque la lutte biologique utilise des insectes naturels pour combattre d'autres insectes qui peuvent être méchants ou d'autres micro-organismes. Et en ce moment, il fait une étude sur la Suzuki, qui est une drosophile dont on entend beaucoup parler, qui a comme effet de faire pourrir des fruits parce qu'elle elle peut piquer à travers la peau. Et donc après, ça fait une porte d'entrée pour une pourriture sur les plantes, notamment les cerises ou le raisin.
Oui.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
et son travail consiste donc à trouver un produit qui puisse agir contre ce type d'insectes.
Alors
spécifiquement.
Disons que dans une culture, la lutte biologique, c'est quelque chose qui est à mettre en place dans une stratégie globale de vie. De biodiversité au sein d'une parcelle. C'est-à-dire que si on évite de mettre des pesticides, je veux parler des insecticides notamment, pendant une certaine période, de favoriser la vie des insectes, autres, enfin, de tous les insectes vivants dans le coin. Et par exemple, on peut avoir des... Enfin, après, il y a plusieurs espèces, mais il y a des insectes qui vont pouvoir être prédateurs naturels d'un autre insecte qui peut être un ravageur de la culture.
Je crois que ça a déjà été pratiqué aux États-Unis. C'est de la culture d'insectes, justement, pour traiter naturellement des exploitations. Est-ce que ça, c'est une évidence en France ou alors on reste plutôt à l'état du traitement chimique ?
Alors, c'est vrai qu'en France, on est généralement plus modéré. Si on veut avoir des insectes prédateurs ou qui vont permettre de limiter les ravageurs dans des parcelles agricoles, ça va être plus intéressant pour en France, puisque ça n'existe pas, mais plutôt de laisser faire la nature et de laisser les insectes se reproduire tout seuls. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils préparent... Ils font des cultures de ces insectes qui peuvent être utiles dans les plantations. Et comme ça, ça permet de les répandre en grand nombre pendant les périodes de pression des ravageurs.
C'est peut-être aussi qu'aux États-Unis, je veux dire, dans les immenses états céréaliers, il y a carrément des états où c'est qu'une seule culture, une seule et unique culture. Je veux dire que le milieu naturel a complètement disparu. Alors qu'on n'a plus de milieu naturel, c'est l'homme qui le recrée. Quoi.
Effectivement, c'est ça. Quand on veut favoriser la biodiversité dans une culture, on favorise ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire la présence de nombreuses espèces et des cultures de diverses natures, c'est-à-dire déjà différentes cultures vivrières pour l'homme, et des arbres, des haies, des plantes qu'on appelle des mauvaises herbes d'habitude, mais qui favorisent la vie des insectes et du sol. Et dans cette option globale, c'est là qu'on va retrouver le plus de biodiversité. Et effectivement, aux États-Unis, quand on a des très grandes surfaces de monoculture, une solution qui peut s'avérer intéressante est de répandre effectivement des insectes qui ont été cultivés.
On va revenir sur d'est en ouest, puisque on en a un peu parlé déjà avec Hubert. Lilian, qu'est-ce qui te motive, toi, à aller à travers le monde pour porter la parole sur votre action ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les premières... les premiers voyages et c'est là qu'on a découvert ce qu'on comptait faire aussi au sein de l'association et la découverte des nouvelles cultures, donc des cultures humaines. Et c'est vrai que le monde est très varié et j'ai envie d'aller découvrir tout ce qu'il y a sur nos horizons pour faire aussi donc de la prévention sur des enjeux qui sont environnementaux. Et c'est vrai qu'en ces périodes, on parle beaucoup de sauver la planète. Et je trouve que c'est symbolique de faire un tour du monde, le tour de la planète pour sauver la planète.
Je reviens un peu sur ce circuit que vous allez donc faire depuis Paris jusqu'à...
Paris.
Comme pour le rallye, tout à l'heure, hors antenne, tu nous en parlais. Ouais. Mais est-ce que vous aurez un porteur d'eau ?
Non. Disons qu'on essaye de partir avec les deux mêmes motos. Des motos que, moi, je connais très bien. C'est une Transalp XLV. Pour tous les anciens motards, ils connaissent très bien. C'est une moto qui est sortie dans les années 80 et qui était une icône parce que c'était celle qui a gagné plusieurs fois le Paris-Dakar. Disons que c'est des motos très éprouvées, très rustiques, qui sont capables de tenir un tel voyage et qu'on connaît extrêmement bien parce qu'on a fait déjà 5 expéditions moto avec elles. Voilà.
Donc vous avez prévu aussi certainement un circuit où vous pourrez certainement trouver de quoi réparer.
On a, disons que sur le circuit, on a quelques connaissances qu'on a déjà... entre nous au sein de l'association qui pourrait éventuellement nous aider en cas de problème. Mais on n'a pas de... On n'a pas prévu les pannes, ça c'est quelque chose qui est impossible à savoir, effectivement.
Non. Et puis c'est tellement varié qu'il faudrait avoir une moto complète à disposition. Mais sinon, non, on les connaît par cœur. Moi, je veux dire, ouais, on est agriculteur, on connaît parfaitement la mécanique. Moi, rien me fait peur au niveau de cette moto, quoi.
Et puis, je parlerai plutôt de l'association globalement. Nichols Motor Cycle. Vous envisagez d'autres types d'actions que celle-ci?
Que la prévention des pesticides.
Oui, et même de la manière de le faire.
La manière de le faire. Je ne sais pas si Hubert a déjà parlé du passage dans. On compte passer dans les écoles.
Si, oui.
On a déjà fait des. Enfin, on est déjà suivi parfois par quelques élèves. La semaine dernière, on a fait une conférence pour une classe de lycée de Paris. Ça, c'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur, puisque ça permet de s'adresser à un grand nombre de personnes à travers les enfants, autres que les agriculteurs qu'on rencontre habituellement.
Et comme je l'ai dit, c'est la génération qui normalement doit tout changer. Cette génération qui a le poids le fardeau de toutes nos époques un peu d'abus.
Et du fait de ce contact avec les enfants en école, vous ressentez vraiment cette prise de conscience de leur part ?
Oui, en fait, c'est vrai que les enfants, alors je ne sais pas si c'est juste parce qu'ils sont plus jeunes, mais aussi parce qu'ils ont l'avenir devant eux. Mais c'est vrai que quand on leur parle des problèmes, des enjeux environnementaux et humains, ils sont souvent très, très sensibles à ça. Et c'est vrai que les enfants, enfin, quand on leur parle de nos actions et de ce qu'on veut mettre en place, ils sont très, très intéressés. Et on imagine que ce qu'on leur dit va être, enfin, de bouche à oreille, va être dit ailleurs.
L'émission va bientôt se terminer. Je remarque quand même que votre équipe est relativement jeune. Vous êtes, comment vous vous êtes retrouvés tous, puisque vous n'êtes pas tous du même territoire?
On n'est pas tous du même territoire, mais on est. En fait, c'est souvent on s'est croisés, on a souvent parlé au sein de soit de nos écoles, de nos rencontres à l'étranger. Comme je disais aussi tout à l'heure, quand on est jeune, on est généralement assez sensible aux problèmes d'avenir du monde. Et quand on a voulu faire ça, c'est vrai qu'on s'est assez vite retrouvé avec des personnes de nos connaissances, quoi, pour créer ce projet.
Ça n'empêche pas que des personnes qui sont plus âgées que nous soutiennent. Je veux dire, pour ça, on a fait appel à quelques personnes qui sont quand même, disons, des gens un peu connus, quoi, pour porter notre projet, dont deux journalistes qui sont connus un peu mondialement. J'entends par là un homme qui s'appelle Bernard Chabert, voilà, qui est un journaliste de renom qui sur toute la planète. Et aussi sur Christian Galivet, qui possède une agence de télécommunication et qui soutient notre projet. Voilà, un ancien aventurier et qui a déjà vu quelles étaient les conséquences de tous les abus de l'homme sur un peu toute notre planète. Et voilà, ces grandes personnes nous soutiennent.
On est encore en train de maturer le budget. Il faut déjà savoir que ce sera nous, les émissaires de l'association, qui paieront notre voyage en moto.
Tout le côté moto, c'est-à-dire l'achat des motos, l'essence, etc., sera financé par Lilian et moi. On ne veut pas porter préjudice à l'association qui, bien sûr, ne va pas nous acheter des motos et payer notre carburant.
Exactement. Et ensuite, pour les actions de l'association qui vont aussi nécessiter de l'argent, alors ce sera variable en fonction de ce qu'on aura à disposition, puisque c'est vrai que nos actions pourront... Enfin, disons que dans ce qu'on a calculé, au minimum, il nous faudrait environ 6 à 8 000 euros. De charges fixes, et qu'on pourra ensuite, au niveau des actions supplémentaires qui pourraient vraiment être bénéfiques, monter jusqu'à un budget de 15 000 euros. Alors l'association fonctionne sur des dons, Donc nous remercions évidemment tous les particuliers et les professionnels qui nous soutiennent et nous sommes...
Bien entendu, ouvert à toute proposition de partenariat, que ce soit avec des professionnels, des entreprises, etc., ou des particuliers.
Votre activité est visible sur Internet ?
Alors déjà, on a un site Internet qui s'appelle nicolsmotor.fr, donc nicolsmotor.fr, qui nous permet de mettre toutes nos informations en ligne, au sein aussi d'un blog, pour être suivi. Alors pour qu'on puisse être suivi, justement, on a aussi mis en place un compte Instagram et une page Facebook où des photos et des mises à jour seront mises régulièrement.
Ces liens de réseaux sociaux, vous les trouvez sur le site
Sur le site nicolsmotor.fr, on peut effectivement trouver tous les liens disponibles et... pour nous contacter, c'est très simple aussi.
J'informe les auditeurs que la nouvelle version de votre site sera visible lundi, oui. Si j'ai bien compris. Donc, celui qui sera mis en avant dans l'article de la page de notre site sera obsolète dans 48 heures.
On remercie les entreprises et les particuliers qui nous soutiennent et nous sommes ouverts à toute proposition de partenariat.
Eh bien, Hubert François et Lilian Botin, je vous remercie de nous avoir donné un peu de temps pour d'Est en Ouest.
Merci à vous, surtout.
Merci bien, au revoir.
L'interview du jour.